bonjour à tous. Equinox.
Hélène, là, il faut y aller, là, il faut que tu tournes la roue, on va pas y arriver, quoi, il y a 122 cases, quoi. D'accord ? Alors, on y va. Vas-y, merci. Merci, on y va.
Donc, une femme, sur son vélo, traverse le temps. Son vélo a deux roues. Deux roues pour faire le tour d'une vie. Une vie en 122 cases. Allez, à toi de jouer.
C'est en empruntant un vélo que nous allons partir aujourd'hui sur les routes du monde à l'occasion d'une proposition artistique initiée par l'un des plus impétueux musées des Bouches-du-Rhône, le Muséum Art Latin, fondé par le nobilisé Frédéric Mistral à la fin du 19e siècle. Ce muséum, en cours de rénovation, plutôt que de bâcher s'inédier son édifice, propose d'interroger certains de ces objets confiés au fil des ans par des Provençaux. Une interrogation menée à travers le voyage des 10, autrement dit 10 pièces choisies dans les collections, pour faire l'objet d'une création sonore hors les murs, qui va ainsi s'échelonner jusqu'en 2013. À l'origine d'un tel projet, Guylaine Renaud a son actif un disque, sans domicile fixe, une troubadour, une collecteuse, une ethnographe, conteuse et chanteuse, qui, après un prélude de ce voyage des 10 avec la chanteuse Françoise Atlan sur la culture judéo-comtadine, la culture juive de Provence, le 27 juin dernier, lançait son imaginaire à l'assaut du vélo de Jeanne Calment, la plus célèbre des plus que centenaires françaises. Ce vélo, confié à l'occasion de son 120e anniversaire en 1995 au Muséon par un certain Henri Belin, se retrouve à faire une merveilleuse sortie de piste pour atterrir, tenez-vous bien, au plafond de la Muleta, une société taurine créée en 1906, disposant d'une bodega, une cave particulièrement renommée au moment du festival Les Suds à Arles, tous les mois de juillet, et transformée en ce mois de novembre 2008 en terre de sol battu pour faire danser les mains. Deux roues pour faire le tour d'une vie, un spectacle transversal, déroutant, que je vous invite à suivre, flanqué d'un homme d'écoute, Antoine Chao, fondateur de radios éphémères, détrousseur de sons et aussi journaliste de l'émission de France Inter, là-bas, si j'y suis, suivi directement dans sa roue par Frédéric Nefcherilian, preneur de parole, slameur de fond, composant pour le théâtre, le cinéma, animant des ateliers d'écriture poétique, membre de l'ensemble marseillais Vibrion et armé de mots qu'il pédale comme personne dans toutes les combinaisons. Un équinoxe totalement iconoclaste où se tricotent musique et poésie sur une mécanique pratique en tête de peloton, Guylaine Renaud.
Oui, le vélo, un symbole pour tout le monde de mobilité. Un symbole de mobilité, donc pas que pour les Arlésiens qui ont vu vivre Jeanne Calment, qui, dit-on, a pratiqué le vélo jusqu'à 100 ans passés, mais un symbole de mobilité pour tout le monde, puisque dès le plus jeune âge, nous montons sur un tricycle, et ensuite le vélo à roulettes, et puis après, plus de roulettes, et à nous la liberté. Donc le vélo, c'est un symbole à la fois du petit voyage autour de la fontaine et du grand voyage autour du monde. En fait, j'ai appréhendé le vélo comme on appréhende un monde, un territoire, un jardin éventuellement qu'on ne connaît pas, et on essaie de trouver un chemin dans ce territoire que devient l'objet, et un chemin donc forcément imaginaire, et puis nourri ensuite d'éléments concordants, ethnographiques, historiques et sociaux, puisqu'effectivement le musée Arlatin est le musée d'ethnographie provençale, et qui parle aussi de l'histoire de la Provence au travers des âges, d'une mémoire de la Provence qui est une terre d'accueil et une terre aussi de départ. Et donc ce musée parle du monde aussi. Voilà. Alors on appréhende l'objet par rapport au monde qui l'entoure.
Chaque fois qu'il prend son vélo, d'un coup de pédale, il invente le temps. Il éloigne l'horizon et agrandit l'espace. Le vélocipédiste expérimente les lois de l'expansion.
Et si la roue, finalement, ça représentait l'espace, le temps. Et si le temps, c'était un jeu.
Guylaine Honneau, vous appréhendez cet objet à travers aussi une histoire que vous avez envie de raconter et que vous avez envie de raconter en musique. Alors on part d'un objet, on part de texte, on part de sa correspondance, enfin il y a énormément de choses qui se juxtaposent sur ce projet, et puis on est sur l'oralité et sur l'oralité en musique.
Oui, complètement. C'est-à-dire que le mot appelle le son, le mot appelle la musique, le chant appelle la parole. C'est une histoire toujours de savoir est-ce que la parole était avant le chant ou est-ce que le chant était avant la parole. Voilà. Alors, dans cette création, je tente de donner à entendre ces deux aspects, c'est-à-dire que le chant peut amener une parole et puis la parole peut amener le chant, car la parole peut avoir quelquefois un aspect un peu de intellectuel où il faut réfléchir, où il faut se concentrer, et puis hop, on lâche de nouveau avec le chant qui vient illustrer ou introduire le propos.
Alors vous êtes conteuse, vous êtes chanteuse, vous avez des liens très forts avec la Provence, avec le Provençal, avec la Grande Occitanie, enfin on peut aller encore et encore rouler sur tout cela. C'est vous qui avez proposé au musée ce projet et pas le contraire.
Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que je travaille en Arles depuis quelques années et que je vais souvent au musée Arlatin, que j'y ai travaillé à plusieurs reprises sur des commandes ou des propositions que j'avais faites. Parce qu'un musée comme ça, c'est pour moi, c'est la vie, c'est une vie concentrée. Et donc, du coup, effectivement, quand on voit tous ces objets rassemblés dans un musée pareil, on se dit que chaque objet est un concentré de vie. Et pour moi, femme troubadour qui m'intéresse à la vie, je me suis dit que je pouvais imaginer que chaque objet prendrait vie et sortirait de son cadre. Donc je suis allée un jour avec une petite feuille de papier voir la responsable des publics de l'époque, Estelle Rouquette, et je lui ai dit « Estelle, voilà, j'ai une idée, qu'est-ce que tu en penses ?» Et elle a trouvé ça très très chouette. Elle m'a dit « C'est une belle idée, nous en parlerons à Dominique Serena, qui est la conservatrice du musée. » Et Dominique, effectivement, a réagi assez rapidement en disant que c'était une très belle idée et que nous devions nous y intéresser. Voilà. Et l'aventure est partie il y a 2 ans. L'idée est partie et au fil des jours et des mois, nous avons construit un projet assez original, atypique. Mais j'avoue que j'ai un faible pour les choses atypiques.
Sont le temps zéro de notre histoire. Vous y êtes ? Au 21 février 1875 de notre ère, quand bébé Jeanne-Louise paraît rue du Roure en poussant son premier cri. Celui de la Troisième République a retenti quelques jours avant, et quelques jours après, c'est Carmen qui pousse le sien à l'Opéra Comique, et puis ensuite c'est bébé Maurice, Ravel, à Cibourg, le 7 mars. Et pendant que les Arlésiens, le 24 avril, acclament le nouveau pont de Trinquetaille, la petite Jeanne-Louise, elle, dans sa berce, réclame la tétée sous l'œil attendri de Marguerite, Nicolas et du grand frère François. Ah, ce jour-là, à la Roquette, la famille est Calmant. Calmant ou Calmain ? Calmant, Calmain, Calmant, Calmain. Aïe. Arlatin, Calmain.
Ce qui est surprenant, c'est que vous auriez pu, toute seule, enfourcher cette idée de vélo de Jeanne et puis construire ce spectacle. Et vous avez voulu faire appel à d'autres, à quasiment un tricycle, là.
À deux roues supplémentaires, oui. Oui, forcément, parce que ce qui est intéressant à un moment donné, c'est de croiser les regards. Hein. Le monde est vaste et on ne peut pas s'y promener tout seul, sous peine de s'y perdre. Donc voilà, ce qui était important pour moi, en tout cas dans ce projet, c'était de partager, parce que c'est très important pour moi le partage, de partager cette recherche. Puisqu'effectivement, on va dire de façon un petit peu technique, j'aborde l'objet, je rentre en contact avec lui, donc de toutes les façons dont j'ai parlé tout à l'heure, par plusieurs portes, plusieurs angles d'approche. Et puis, bon, bah, j'en sors un texte, une composition, une partition, donc de mots et de musique et de chants et de sons que j'imagine. Hein. Et ensuite, je dis voilà. Je vous propose cette recherche-là et comment vous pourriez partager, comment on pourrait partager ça ensemble. Et l'aventure donc commence au moment où on se met à partager donc avec d'autres artistes cette recherche-là, ce territoire. On va fouler le territoire ensemble.
Et tout juste si les murs se souviennent des odeurs, des odeurs de poissons séchés.
Andiguana Massie, la Ciutat, cette, un
pays à vie de travail. Le port abandonne Arles et le Rhône, tire ses marins plus près de la mer là-bas, au port de Saint-Louis. Et comme le flux et le reflux, les marins partent. Ils vont à la mer ou ils vont à la terre et deviennent paysans et les ouvriers arrivent. Ils vont au rail, comme on rentre dans les ordres par la nouvelle vocation d'Arles, le train.
C'est dire qu'à cette époque-là, les ateliers de la SNCF ont sorti à 11h30 pour éviter la cohue dans la ville d'Arles. Parce que c'est tout le monde, les papeteries, les CMP et les ateliers d'art sortaient ensemble, là. Mais tu avais des kilomètres de vélo. Hein. On était 1800, mais il doit y avoir 1500 vélos. Bon, il n'y avait que le vélo, hein. À part le patron qui avait la voiture.
Assyrie impose leurs lois et leur ciel cireux. Et les ténèbres de fonte, le ruban bleu des rails noue la terre et tes oliviers. Ô usine, ton acier est coqué. Il a des frimons bleus, des mirages d'argent, des métaux idylliques à qui tremble, qui lève la tête. Le soleil éclate, répand sa blessure. Un lac de flambe à qui lève la tête, cachant sa blessure pour qui tremble. Demain sera dur. Ô marin, une forge de feu palpite et fume, la dernière cigarette au grondement des machines, au tambour des marteaux, à la vapeur qui siffle, ton duvet n'y peut rien. Au contraire, ô marin, qui tremble, qui lève la tête, qui regarde au loin. Qui regarde partir les bateaux, la forge qui vient, mange la terre, chasse les navires aux marins. Qui tremble demain, qui lève la tête, se disperse tes rêves de lendemain. Qui dira oui, qui dira non? Ton duvet n'y peut rien, au contraire, ô marin. Lève la tête.
Frédéric Neufchirlian, c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu, maintenant beaucoup plus, que je connaissais un petit peu d'abord parce qu'il est marseillais et que donc la scène marseillaise à peu près je la connais, je connais les artistes qui l'animent. Fred a pour moi un grand talent et il joue avec ses mots de façon tellement profonde et puissante. Et c'est vrai que bon, un peu aussi ses collaborations et ses affinités avec le Muséum Art Latin ont fait que on s'est dit pourquoi pas Fred dans cette aventure, et on a dit, et alors j'ai dit mais pourquoi pas Fred avec le vélo de Jeanne Calment.
Jeanne, avant de savoir que vous feriez un spectacle à partir de son vélo, c'est quelqu'un qui vous interpellait déjà, ou c'est venu comme cela à travers justement la vision de son vélo à elle?
Non, à vrai dire, elle est comme pour tout un chacun, cette héroïne populaire, pour ne pas reprendre l'expression de Dominique Serena. Donc, Jeanne Calment, l'héroïne populaire, qui est la doyenne de l'humanité avérée à ce jour. Et donc, non, je dirais pas plus que ça à l'époque, mais tout d'un coup, c'est ça l'intérêt de ce projet, c'est que finalement, un objet ou une personne qui fait partie du paysage devient tout à coup quelque chose d'exceptionnel et qui nous ouvre le regard et les oreilles sur un monde insoupçonné. C'est exactement ça, je dirais, le projet.
Quand elle tourne la roue, on pédale, on tourne la roue, on pousse, la roue tourne, c'est parfait, c'est rond, c'est bien, il y a des roues rondes, des roues de bois, des roues de fer, des roues de plastique, c'est bien, c'est pratique, la roue, c'est l'invention de l'homme, la roue, dit l'homme. C'est la plus grande invention de l'homme, la roue, dit l'homme. C'est l'égal du feu, un bond énorme, la roue. Un bond énorme pour l'humanité, pour l'homme, la roue, dit l'homme. C'est nous, la roue, c'est nous, mais en mieux. La roue, c'est mieux que nous. C'est rond, c'est limpide, ça a deux sens, pas plus. Après, c'est plus comme nous, dit l'homme de la roue. C'est, l'homme ne dit pas que c'est rond toujours, enfin, mais que la roue, que dans la rue, ça roule. Hein, on te roule même dans la roue, on te roule dessus dans la rue. On te roule dessus aussi, le faux. L'homme, la roue, c'est rond, c'est bon, c'est beau, c'est parfait. Il y a des roues de devant, des roues de derrière, des roues en matière nouvelle et incroyable. Des roues qui transpirent plus, des roues qui tournent sans respirer, des roues qui roulent sans tourner, des roues parfaites, incroyables. Je disais oui, la roue est au centre de tout. Quand elle roule, c'est parfait, c'est étrange, passionnant, c'est beau. La roue, qu'est-ce que c'est beau. Et puis il y a des roues pour rats, hein, pour hamsters, des roues, comment dire, l'homme parle à la roue pour lui dire enfin, allez, tourne la roue, cocotte, allez, tourne, dit l'homme, allez, tourne, et puis la roue de la fortune, allez, dit l'homme, allez, tourne, allez, et arrête-toi où il faut, hein, déconne pas, hein, pas à côté des millions, hein, en plein milieu des millions, hein, c'est possible, dit la roue, c'est possible à l'homme de la roue, hein, parce que la roue, c'est l'homme, mais en mieux. C'est mieux que l'homme. La roue, c'est on trouve des roues qui volent, des roues qui planent, des roues qui creusent en tournant, des roues qui percent en tournant, des roues qui luisent, qui méprisent, qui dorment, qui chassent, des roues qui frottent, trottent, craquent, enfin des roues qui tournent le dos aux gens et des roues qui gentiment dérangent. Et dans le monde, il y a des roues de voyage, des roues de bas étage, des roues de coups, des rats de roues, des marées entières, des ronds de jambes, des roues d'ivresse, des tonnes de roues partout, enfin dans le monde, il y a des roues de temps, hein, du temps des roues, hein, du temps des roues, dira l'homme bientôt, du temps des roues, temps. c'était génial, il y avait des ronds partout, hein, des ronds, hein, les ronds, c'est bon, hein, les ronds, quand on en a plein les poches, c'est bon, les ronds, hein, ça c'est bien, ça, enfin, les ronds, c'est bon, c'est, et enfin, des ronds, un trou, et puis un trou dans la roue, et c'est fini, plus rien ne tourne, plus rien ne va, plus rien, et quand il y a un trou dans la roue, c'est fini, c'est crevé, après, il n'y en a plus, c'est crevé.
Est une grande roue.
Frédéric Neufchirlian, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a peut-être happé dans un premier temps dans votre imaginaire à propos de cette histoire? Le vélo, Jeanne Calment, le rapport au temps. J'imagine que là, il y a comme ça des clignotants qui s'allument aussi dans la tête par rapport à une histoire comme celle-ci, à échafauder.
Je ne connaissais absolument pas Jeanne Calment, ni son vélo. C'est plutôt le processus, on va dire, ou les personnes en présence qui m'ont donné envie dans un premier temps. Travailler avec Antoine, avec son dispositif radio, ou c'est travailler avec Guylaine, qui est porteuse d'une certaine tradition, c'est-à-dire provençale, on peut le dire comme ça, du chant, de la poésie, des troubadours. Je me suis dit, oh là là, ça va me déplacer. Ça va m'amener dans des endroits où je n'ai pas l'habitude d'aller. Voilà, je suis assez friand de ça, de me retrouver dans des endroits. Et puis je me suis dit que cette histoire de vélo, ça allait inévitablement renvoyer à des histoires de gens, des histoires d'une ville. Cette roue qui tourne, et les idées qui viennent comme une roue qui tourne, ça m'a beaucoup questionné. Et ce qui m'a beaucoup aussi impressionné, c'était de me rendre compte qu'en 1900, elle avait 25 ans, quoi, qu'en 1920, elle en avait 45. Tout à coup, on prend conscience qu'elle a traversé un siècle, ouais, même plus d'un siècle, mais c'est impressionnant. Impressionnant. Ça m'a scotché. Hein. Et de façon très évidente, j'ai dit à Guylaine, il faut qu'à un moment donné dans le spectacle, on mette le public face à cette réalité, quoi. Face à ça. C'est-à-dire, elle avait 70 ans quand les femmes ont eu le droit de vote. La première fois qu'elle a voté, et j'ai écrit cette phrase, la première fois que j'ai voté, j'avais 70 ans.
Il y a les propositions de Guylaine aussi en termes musicaux qui accompagnent cette histoire. Et là, vous avez un rôle important.
Oui, j'ai fait des choses spontanément. À un moment donné, elle s'est mise à me lire certains textes qu'elle avait recueillis. Moi, j'étais dans un coin, enfin, elle lisait, j'étais dans un coin avec ma guitare, et puis il est venu des choses. J'ai mis en boucle, j'ai pris une kalimba, j'avais amené la kalimba en me disant...
Petit piano à pouce.
Oui, voilà, on peut appeler aussi ça une senza. Et ça s'est mis en place, comme ça, puis on s'est regardé, on a dit, oh, ça a l'air bien comme ça. Si tu continues ton texte, on trouve un moment. J'ai pas vraiment, on va dire, conçu. Je me suis laissé traverser par ça. Guylaine avait donc vraiment une armature assez forte, tout en nous laissant une liberté incroyable dans l'intervention, hein, puisque toutes les propositions qu'on a pu faire avec Antoine, elles ont tout de suite été intégrées, accueillies, quoi. Et elles font le spectacle, vraiment, elles participent du spectacle. Après, dire que quel rapport entre le temps de vie de Jeanne et notre temps d'intervention. Oui, c'est sûr qu'il y a une grande, grande, grande opposition. Quand on a voulu aussi donner la parole à Jeanne dans nos textes, quand on a voulu marquer sa traversée du siècle, on a voulu dire, voilà, elle a vécu ça, elle a vu ça, elle a vu la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, elle a vu l'arrivée des Beatles, elle a vu, tout un tas de trucs.
La Révolution russe.
La Révolution russe, enfin, tu vois, je ne vais pas en dire tellement... Et en fait, moi, ma première réaction, c'était de dire « Je me souviens du goût du vin blanc, je me souviens des citrons, je me souviens que je portais des robes, je me souviens que j'aimais bien les tenues de sport. » Je ne pouvais pas entrer dans la grande histoire, mais plutôt dans la petite histoire de tout un chacun qui est « J'adore manger du chocolat. » Ça, pour moi, c'était plus important. Et Antoine, spontanément, a mis en toile de fond... des extraits radio, là, des événements, hein, le premier homme qui a marché sur la Lune, etc. etc. Moi, j'ai énormément de mal à parler pourquoi nous, on a écrit des choses très rapidement par rapport à une grande vie. Par contre, on s'est rendu compte qu'on partait de la grande histoire, c'est-à-dire de quelque chose de très large, très ample, pour aller se focaliser de plus en plus vers la singularité d'une personne. Une personne, mais une personne qui est comme les autres. Qui est comme les autres, sauf qu'elle a vécu 122 ans, quoi. Et là, ça réouvre. Ça part d'un mouvement du général au très 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 particulier Mais ce très 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 particulier finit par être universel parce que j'aime le citron, j'aime... C'est assez déroutant. En fait, c'est très vertigineux, quoi. Là, très souvent, j'ai le sentiment d'être face à... J'ai le vertige face à 122 ans, quoi. Puis la solitude de cette femme, quoi. Elle a quand même enterré ses enfants, ses petits-enfants. Ça nous renvoie à... Et puis, quand elle dit, tout au long de sa vie, les dernières années, toujours, 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 c'est « j'ai été heureuse, j'ai bien vécu ». Non, mais finalement, j'ai été heureuse, quoi. J'ai bien vécu. Là, c'est... Ça revient tout le temps. Alors qu'elle reste toute seule. Bon, après, c'est devenu une star, quoi.
22, 23, 24, 27, 26, 15, 26. Jeanne, maintenant, est une dame. Elle va partout avec son Fernand. La Camargue est si belle. Et son petit truc qui brave chaque jour. Le soleil, le sel et le vent. Amène par-ci les saliniers. Blanche camelle. Et par là au jour clément, les belles arlésiennes se promenaient au bord de mer. Jeunesse riant sous leur chapeau de paille, de la fenêtre élant ceux qui pédalent joyeusement. Les arlésiennes vont au bain. Maintenant à une bicyclette de Monsieur Peugeot et compagnie, très moderne, avec des pneus en caoutchouc.
C'est vrai que Arles possède peut-être quelques secrets de longévité, qu'est-ce que t'en penses,
Fred? À moins que ce ne soit le vélo, hein.
On se le demande.
Pas être chauvin de trop non plus.
Ouais, c'est vrai. Parce qu'en plus, en ces temps-là, des bicyclettes, il en sort tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et des petites sœurs jumelles, il en a plein, plein, plein. Hein. 9 millions par an, à peu près, au début du siècle. Et entre nous, une manne pour l'État. La vignette obligatoire sur les bicyclettes. Ah, parce que vous ne le saviez pas, ça. La taxe, quoi ? La taxe. Et qui avoisine à cette époque les 4 ou 5 francs.
Eh oh, ma belle, les pistes cyclables, il faut quand même les payer, non ?
Lui, c'est le vrai patron. Mais en tout cas, pour Jeanne, c'est pas trop un problème de donner 4 ou 5 francs par an, je vais vous le dire. Mais elle est heureuse, Jeanne. Elle est heureuse, elle pédale, elle sourit à Fernand.
Alors, vous nous proposez une sorte de jeu de loi de ces 122 ans où vous ouvrez quelques cases. Vous vous arrêtez sur la case 7, sur la case 8.
Sur la case 21, sur la case 28, sur la case 100, sur la case 122 et bien d'autres.
Voilà, ça ce sont des choix complètement arbitraires. Mais il y a quelque chose qui est surprenant, c'est qu'on a à vous écouter... parfois, vous incarnez un peu la Jeanne.
Oui, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'à un moment donné, je rentre dans cet espace, je rentre dans ce territoire, je m'imprègne, on est dans... oui, il y a un rapport presque symbiotique entre l'objet et moi. Ça fait déjà plusieurs semaines que je suis avec elle en permanence. Voilà, donc c'est tout le travail de recherche et de travail préalable avant d'arriver à partager cet objet et cette pièce avec d'autres artistes. Et c'est vrai que du coup je l'incarne parce qu'il y a une tentative de donner aussi cette idée de ce personnage qui était pour le moins un peu atypique.
Atypique pour quelle raison?
Bah, atypique parce que c'est une femme déjà qui était, semble-t-il, très indépendante, qui était habillée en homme, qui aimait aller à la chasse, qui aimait faire du vélo, qui avait une tenue de sport, bon, voilà, qui était, dit-on, une femme assez autoritaire, qui menait sa maison, elle avait des gens qui travaillaient pour elle, elle n'aimait pas la classe ouvrière. Enfin bon, c'était une femme très particulière et voilà, qui vivait dans un monde bourgeois de l'époque. Et c'est ça qui est...
bon, qui est intéressant, parce qu'à la fois, bon, c'est une femme qui a frondé, à mon avis, le regard que pouvait porter la société arlésienne à l'époque sur les femmes peut-être un peu émancipée. Alors c'est vrai que moi, en tant que femme, ça m'a interpellée, bien sûr, de façon évidente. Et après, je me laisse gagner par sa vie et peut-être donc que je deviens un peu, le temps d'un spectacle, la voix et l'âme de Jeanne, quoique.
Alors je vous dis que Van Gogh a vécu assez longtemps dans Arles. Il paraît qu'il a fait de belles peintures. Moi, je ne l'ai pas vu. J'étais jeune en ce moment, ça ne m'intéressait pas. Et comme nous avions au magasin des nouveautés, de la soirée, etc., il y avait un grand rayon de toiles variées. Il y avait toutes les qualités. Et Van Gogh venait acheter ses toiles pour ses peintures. Alors mon mari me dit, si tu veux connaître Van Gogh, je t'enverrai un employé, tu descendras et tu viendras de connaître. Parce que moi, je ne m'occupais pas de la vente. Moi, j'étais dans mes appartements. Voilà. Je déploie toutes mes grâces féminines, un bon sourire, je tends ma main, il se retourne et me regarde. Ni un sourire, ni une me tendre. Moi, je suis rentrée avec un sourire jusqu'aux oreilles, la main tendue. Je pensais si j'ai pris la tangente. Je suis remontée vite sur mes appartements. Ça m'a suffi. Je l'ai dit 5 minutes et ça m'a suffi. Pour les télés, il avait des casquettes hollandaises jusque-là. Il était pas beau, et puis il était pas gracieuse, puis il était malade, il faut dire. J'ai vu sa casquette, j'ai vu sa figure renfrognée. Il fréquentait les maisons de tolérance, beaucoup. Et aux maisons de tolérance, il buvait beaucoup, il buvait. Il commençait à devenir fou. C'est pour ça qu'il devait avoir beau caractère de nature, et sa maladie devait encore l'aigrir davantage. Et le docteur Rey, c'est lui qui le soignait. Et par reconnaissance, il lui avait fait son portrait. Il était ressemblant, c'était la tête coupée. Malheureusement, il y avait trop de couleurs. On aurait dit qu'il avait 2 tomates au mur écrasées sur les pommettes. Ça m'a pas plu. Il a dû écraser un tube de rouge sur le fer. Les couleurs ne m'ont pas plu. C'est tout ce que j'ai vu de lui. Et puis, il a été vendu. Il a été vite vendu. On est vite venu le demander à l'acheter au docteur. Et on lui a donné je sais pas combien de millions. Je crois que c'est un Américain qui est venu. Je crois. C'est tout ce que je sais. Je vous dis, je l'ai vu. Le temps de le voir et fuir, ça a été cœur. Il m'a tellement mal reçu que je n'ai pas demandé mon reste. Je suis remontée chez moi.
Jeanne n'étudia pas la philosophie. Cela ne convenait pas à l'éducation des jeunes filles. Et le baccalauréat était réservé aux jeunes hommes. Les femmes savantes, ce sont des bas bleus. Mais Jeanne apprit à manier les aiguilles et à jouer du piano.
Bon, attends, ça tient pas debout cette histoire. Elle avait que 13 ans quand Van Gogh était là. Donc on passe case 21, au moins elle est majeure.
Ok, chef.
Je suis venu ici avec mes outils de reporter, donc avec mon magnéto et avec quelques contacts téléphoniques pour essayer de faire une enquête, faire un reportage. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et après, avec ces éléments, j'ai essayé aussi de raconter une histoire avec elle et avec Fred. Et puis, alors moi j'ai des archives, hein, forcément, donc je me suis permis de fouiller aussi en plus à l'INA tout ce qu'avait pu dire Jeanne Calment dans sa vie, hein, donc surtout dans les dernières années, parce qu'avant effectivement ça avait peu d'intérêt ce qu'elle pouvait dire, je pense. Et donc j'ai pioché dans tout ça et j'avais une quantité d'éléments sonores, d'archives, etc. Et avec ça, bon, j'ai essayé de construire un récit autour de cette trame que Guylaine avait tissée. Et puis, voilà, donc c'est un travail un peu en commun. Bon, je me suis mis au service de cette histoire, hein, comme je peux me mettre au service d'autres. Et j'aime bien, tout d'un coup, participer à une création, à un moment de recherche, d'expérimentation radiophonique. Donc, bon, je trouvais ça intéressant de jouer sur les deux tableaux, donc de jouer sur le spectacle vivant, hein, le live qui va être donné, et aussi sur un aspect radiophonique, donc cette émission hein, qui va se faire, qui se fait en ce moment, et qui sera aussi un deuxième résultat de ce travail.
Et puis il y a une spatialisation que Guylaine a proposé et qui est une manière aussi de toucher un public. Quand on fait de la réalisation radiophonique, on espère toucher l'auditeur, les oreilles qui nous écoutent. Et là, le spectacle, ça propose aux spectateurs peut-être aussi une approche quasi physique de l'affaire.
Alors on a travaillé en quadriphonie, parce que Guylaine le fait régulièrement et moi j'avais envie de le pratiquer, donc ça m'a permis aussi de toucher cette technique-là. Et je me régale effectivement à mettre comme ça en dimension des sons que j'ai l'habitude moi de plaquer en stéréo. Donc là effectivement on a un mouvement sonore dans une pièce et je m'amuse beaucoup quoi, à faire ça. Voilà, c'est aussi une des choses qui m'intéressait, donc de quitter un peu ma stéréo pour faire de la quadriphonie. Quoi.
Il y a un son que j'aime particulièrement, c'est le son de la roue qui tourne et du bruit de la chaîne bien huilée qui permet aussi de faire avancer le spectacle. Vous y êtes allé très doucement, on sent que vous êtes très léger, un peu comme si Jeanne Calment, elle était là aussi, elle pouvait aussi de temps en temps donner un petit coup de pédale qui ferait avancer la roue. On sent que vous êtes très très léger sur ce projet.
Alors le risque, c'était de sursignifier, quoi. Voilà, c'était voilà. Effectivement de faire des illustrations sonores de ce qui était en train de se dire, donc c'était ce qu'il fallait éviter, et j'ai essayé de le faire.
Ce son de vélo, vous l'avez trouvé où ?
Alors j'ai pioché dans beaucoup de sons, notamment dans le Paris-Roubaix de Yann Parentoen, où il y a des sons de vélo magnifiques. Un parmi 100, Paris-Roubaix.
Nous avions 78 engagés, il devait laisser 60 coureurs se mettre en ligne à Mangeron, à la Belle Étoile, de l'auberge de la Belle Étoile.
Nous reprenons l'antenne, mais malheureusement nous n'avons pas grand-chose à vous dire.
Le premier Tour de France prend le départ le 1er juillet 1903 à Paris. Et ce soir, c'est le bal du Vélo Club aux Folies Arlésiennes. On danse le quadri infernal, tout pour la pédale, tout pour la pédale, tout pour la pédale, c'est amusant, très 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 amusant.
L'actualité politique. La révolution d'octobre 1917 en Russie et l'arrivée au pouvoir de Lénine vont bouleverser la situation internationale. La révolution russe va faire naître des espoirs au sein du mouvement ouvrier dans le monde entier.
Je me souviens de la vanille.
En France,
des huîtres,
du citron,
du citron,
des coupes de vin blanc,
le 4 quarts.
Je me souviens de la bouillabaisse,
les tartines trempées plus que le poisson,
avec de l'ail, de l'oignon,
les crèmes, les gâteaux,
et le chocolat,
les gourmandises,
et le chocolat,
surtout le chocolat.
J'étais heureuse en soi.
Et maintenant on a la purée, on n'a pas le choix.
Matin et soir, purée.
Ça n'a pas de goût.
C'est fade, matin et soir, bah.
Je vis mécaniquement.
Je me souviens des arènes.
El Espartero de Valencia.
La manade de Dijol.
Le novillo qui fonce.
Et les arènes.
Et le monde.
Le monde partout.
Un souvenir pénible.
El Espartero muerto.
Je me souviens des frites.
Des fritures.
Des goûts un peu forts.
Des goûts relevés.
Je porte des écouteurs pour faire ma gym.
De belles toilettes.
Là, c'est moi en tenue de chasseur.
Là, en tenue de cycliste.
Là, en tenue de sport.
C'est celle que je préférais.
Là, c'est moi en arlésienne.
Victor Hugo. Inévitable.
La grève aux ateliers. Inévitable.
Les ouvriers ont tous été renvoyés.
Ils l'avaient bien cherché.
J'étais doué pour le piano.
J'ai pris des leçons.
J'avais des dispositions pour ça.
Gardez votre conscience.
Je n'aime pas la grosse musique.
J'aime Mozart.
La première fois que j'ai eu le droit de voter,
c'était en 1945, j'avais 70 ans.
Il y avait des longues robes,
Des robes décolletées.
De grands bois.
Des étoles.
Des fourrures.
Du castor.
Du renard.
Il était argenté.
Dans les gris clairs, forcément.
J'ai un estomac d'autruche.
Et pourtant,
je suis complètement dépourvu.
J'ai perdu mon Eurydice.
Heureusement, il y avait des spectacles taurins.
C'était plus amusant.
Des bicyclettes dans une arène.
Personne n'y croyait.
Mais ça se faisait.
Des impastres.
Des charlots.
Des banderilles sur un vélo.
Mammon Gion sur un vélo.
À une roue.
Puis j'en ai vu des monnaies.
Des monnaies timbres.
Des bons pour un franc.
Des francs or.
Des quatre sous.
Des francs francs.
Des nouveaux francs.
Des anciens francs.
Et des francs germinales.
Enfin. Mais si la mort vient,
cela ne me dérangera pas.
Je ne me plains pas.
Je ne souffre pas.
Je n'ai qu'une chose.
C'est que maintenant,
je suis vieille. Donc on me donne les documents, on m'a donné les documents, les fiches d'inventaire concernant le vélo, puisque le vélo est rentré dans les collections du musée, donc il est répertorié. Et puis ensuite, je pars quand même à partir de l'imaginaire, à partir de l'objet même, je dirais matériel, hein, parce que l'objet déjà doit parler en lui-même, donc on part évidemment sur l'histoire du vélo, mais du coup on parle aussi de l'histoire arlésienne, parce que le vélo n'est pas allé très loin, Jeanne n'a pas beaucoup bougé dans sa vie, je pense qu'elle est allée à Marseille au mieux, à l'opéra, donc il s'avère que là nous sommes sur une balade dans le territoire arlésien, et donc forcément on va passer les époques tout de suite, une concordance entre le vélo qui avance et le temps qui passe, donc souvent des livres, des collectages de paroles, voilà quoi, au niveau des recherches, c'est comme ça que je procède quoi.
Sur les camines et promenades, dans mon davao, décidé là, des longues vezaines baroula, messieurs les vélocipédistes, eh. Des artistes, do poulibrindo, kelivan, grand et pichoun, garé d'avant, chacun son outil en cavale, et léo léo gansin d'aval. Tant en cabido, nouvelle a, vous formez ce chiva ou chimeri, concurrence au camin de ferry. Quel y en chao le monte gué, le franc qui reye à pépouqué, déversant Lazare ou Sentane, c'est les faliers. Voilà, c'est notre truc à Dichinkalou, au ben dit tout en très valou.
Parlez-nous aussi de cette chanson en provençal.
Alors ça, c'est une facétie, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire que des gens prenaient la parole dans un rassemblement, dans une société, enfin voilà, lors d'un banquet. Et cette facétie ça s'appelle l'ouvélocipède, donc il veut dire le vélocipède en français. Et en fait, il fait l'éloge du vélo qui arrive. C'est une facétie qui date de 1884, donc qui a été écrite à Aix, en Provence, et qui dit, voilà, maintenant les vélocipèdes envahissent le monde, ils n'ont peur de rien, ils avancent, ils font des records, poussez-vous, ils arrivent, maintenant fini les chevaux, ils vont faire concurrence au chemin de fer, voilà. Donc c'est l'éloge du vélo, le vélo arrive à la fin du siècle, c'est un bouleversement dans la vie des gens, le vélo. C'est vrai qu'aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, mais, et ça c'était important pour moi de le dire. Donc les apports effectivement extérieurs qui peuvent agrémenter et illustrer le propos ethnologique sont effectivement des poésies, des textes, des chansons, des éléments éventuellement techniques que je poétise. Et effectivement, par exemple, les bloomers, hein, qui sont que Fred a tout de suite accueilli et magnifiquement, voilà, ça c'est fantastique, voilà l'aventure, c'est que c'est un texte pris dans un livre sur l'histoire du vélo, un très très beau livre, et un poème satirique sur les femmes qui portent le bloomer fin du siècle aux États-Unis, parce qu'il y a eu des vrais mouvements féministes aux États-Unis qui se positionnaient pour d'abord le port du costume rationnel, donc ça c'était la tenue qui était différente de la jupe, qui ne contraignait moins les femmes, et puis ensuite une femme, Amelia Jenks Bloomer, qui lance une ligne et une nouvelle mode, c'est le bloomer de son nom, et qui va révolutionner effectivement la tenue féminine. C'est un pantalon bouffant que les femmes porteront quand elles feront du vélo. Donc le bloomer est un poème satirique de 1896, et le voilà chanté en blues dans ce spectacle par Fred Nefcherlian.
Certains disent avoir découvert.
Comment diable ont-ils pu faire
que les bloomers du Kentucky cachent une flasque à whisky? Regarde la route
en face,
parce que sous son bloomer vert, elle aurait un revolver. Que dans Boston, ville si grave, des cyclistes vêtus en zouave drapent d'étoffe fantomatique, clic, l'acier d'un
automatique.
Hey, les bloomers du Kentucky. Que la décibelle du Kansas Braise et Marie bien en place, toute bouffante de bulletin court les urnes soir et matin. Qu'à Chicago ces dames roulent avec en poche une foule de papier gris, de papier d'or, feuilles du bourse et cours du port. Les bloomers du Kentucky, les bloomers du Kentucky, les bloomers. les bloomers.
Mais voilà, messieurs, le vélo ne se monte pas en Amazon.
Guylaine, nous vous nous mettez l'eau à la bouche concernant la suite de cette aventure. On en est à la première étape, à la première station, j'oserais même dire, avec le vélo de Jeanne Calment, sur une idée que vous voulez poursuivre à travers 9 autres objets. Lesquels ?
Juste une petite précision, c'est que nous avons fait un préambule au mois de juin dernier, un peu dans l'intimité, c'était voulu, un préambule du voyage avec la vitrine judéo-contadine du Musée en latin. Et j'ai partagé cette création et cette recherche avec Françoise Atlan, qui est une chanteuse séfarade, qui fait des chants séfarades. Ça a été une très très belle rencontre. C'est un aspect méconnu de la culture provençale et qui néanmoins est très très importante, puisque la présence juive en Provence est très très ancienne et que pendant 3 siècles, elle a été enfermée dans des carrières, comme on disait ici, c'est-à-dire les rues. Ça ressemblait à des ghettos, à peu près, quoi. Voilà. Donc, c'était important aussi parce que nous avons une belle vitrine judéo-contadine au Musée en latin, voulue expressément par Frédéric Mistral. Donc, ça, c'est très important. Donc, voilà. Donc, première préambule au Musée en latin, première étape, le vélo de Jeanne Calment. Et puis, vont se suivre au fil des années, puisque c'est un projet qui devrait nous conduire jusqu'en 2013, date où le musée réouvrira ses portes, parce que si le musée sort de ses murs, c'est parce qu'il se referme sur lui pour se refaire une jeunesse ou une beauté. Il ferme donc ses portes pour rénovation durant 4 ans. Et donc pendant ce temps, eh bien, les routes vont accueillir les 9 autres pièces de la collection, les 9 autres pièces choisies. Donc il va y avoir des tableaux, de la peinture, des petits objets d'argile, hein, des objets de sel, des à suivre.
Aucun express. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va. Sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si au perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators au chariot. J'ai longé ton corps.
corps, épouser ses méandres, je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers, délaissant les grands axes.
Equinox, proposé par Caroline Bourgine et réalisé par Sylvie Migaud et Laetitia Coya. Mixage Julien Douminc. Et un grand merci à Thibaut Verdron et Fabien Sanchez pour l'enregistrement du spectacle. Merci à Marie-Claire Matoute qui m'a aidé à préparer cette émission, disponible en podcast et que vous pouvez réécouter toute la semaine sur notre site www.franceculture.com, un site où vous pouvez consulter notre agenda et toutes les informations pratiques concernant nos invités. À noter notre rendez-vous ce jeudi 4 décembre pour l'enregistrement de l'émission Africolor Feeling au studio 105 de la Maison de la Radio de 20h30 à 21h30. Je vous invite à venir, entrée libre et gratuite, à un rendez-vous où vous pourrez entendre la chanteuse guinéenne Sayoun Bamba et ce duo inédit entre le balafoniste Moussa M et le percussionniste François Merville. Pour réserver cette adresse internet, comfranceculture@radiofrance.com. Cet équinoxe sera diffusé dimanche prochain pour notre rendez-vous habituel à 16h30. Très bonne fin d'après-midi.